Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Un baril de brut comme un baril de poudre ce matin. Quand le pétrole iranien prend feu, c'est tout le marché qui s'embrase. Les cours s'envolent après les attaques d'installations saoudiennes ce week-end. Et Donald Trump menace l'Iran de représailles. Explication dans un instant. On restera dans la région à la veille des législatives en Israël. Netanyahou chasse toujours plus à droite, mais les voisins israéliens de la bande de Gaza lui en veulent. Ils ne se sentent pas assez protégés. Le premier des lanceurs d'alerte à votre micro, Nicolas, interview exceptionnelle dans 20 minutes.
Avec Edward Snowden qui publie Mémoire vive aux éditions du Seuil. Il est donc notre invité tout à l'heure. L'entretien a été enregistré vendredi. Le Standard ne pourra donc pas accueillir vos questions ce matin, mais vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, le brevet des collèges au mois de septembre, 10 fois plus de candidats cette année au rattrapage, conséquence de la canicule du mois de juin. Les agents des impôts en grève contre 10 000 suppressions de postes en 5 ans. Le réquisitoire attendu aujourd'hui au procès du Cuba Libre, les deux gérants du bar reconnaissent toutes leurs erreurs. Et puis Louis Alliot et Alexis Corbière dans le même pack de rugby avant les joueurs pro. C'est la Coupe du Monde des parlementaires au Japon.
France Inter.
Attention, matière hautement inflammable à tout point de vue. On n'a pas fini de mesurer les conséquences de ces attaques aux drones sur deux sites pétroliers d'Arabie Saoudite samedi. C'est l'Iran qui est accusé, même si ce sont les rebelles houthis du Yémen qui les ont revendiqués. Dans l'immédiat, la moitié de la production de pétrole saoudien est à l'arrêt et c'est l'ensemble du marché du brut qui s'enflamme. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
L'Arabie Saoudite n'est plus le premier producteur mondial de pétrole, mais quand elle est touchée, c'est tout le système qui vacille.
Oui, car malgré l'essor du pétrole de schiste américain, l'Arabie Saoudite reste le deuxième producteur mondial et surtout le chef de file de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs, dont ne font pas partie les États-Unis, mais qui domine encore aujourd'hui les marchés mondiaux. Résultat, le baril de brut flambe en ce moment de près de 10% aux alentours de $60, un seuil psychologique qui nous ramène un an en arrière. Les cours du brut avaient plutôt tendance depuis à naviguer en eau calme, même l'affaire des cargos torpillé dans le golfe d'Oman avait plutôt laissé les investisseurs indifférents. Mais là, il s'agit d'attaques sur des infrastructures qui représentent 5% de l'offre mondiale. Les officiels saoudiens insistent sur le fait que les capacités de production pourraient revenir à la normale rapidement, peut-être dès cette semaine. Le pays l'a déjà montré par le passé, il a des réserves, il est capable de remettre du jour au lendemain plusieurs millions de barils sur les marchés mondiaux en quelques jours, ce qui pourrait limiter les effets de la hausse des cours.
Est-ce qu'il faut s'attendre, Fabien, à des répercussions rapides à la pompe?
Rapide, non. Il faut toujours plusieurs mois pour observer une répercussion des cours mondiaux sur les prix à la pompe. Une hausse relative aussi, puisqu'il y a les cours du raffinage et surtout les taxes qui entrent en compte et qui, elles, ne dépendent pas du cours du baril.
Merci Fabien Cazot, chef du service éco de France Inter. Alors s'il faut attendre pour voir ce que vont donner les prix à la pompe, Donald Trump n'a pas attendu pour autoriser l'utilisation des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis et pour menacer l'Iran. On est loin du dégel amorcé au G7 de Biarritz fin août. Grégory Phillips, Trump dégaine de nouveau la menace militaire. Nous sommes prêts à riposter, dit-il.
Logan Loaded, qu'on pourrait traduire par le doigt sur la gâchette, avait déjà été utilisé par Donald Trump en juin, alors pour une frappe militaire contre l'Iran que le président américain avait finalement annulée à la dernière minute. Logan Loaded, la même expression revient dans ce message publié sur son compte Twitter hier soir. Trump précise tout de même qu'il attend que le royaume d'Arabie Saoudite lui désigne le coupable de ses attaques avant une éventuelle riposte militaire. Mais l'Iran est clairement dans le collimateur des Américains. Samedi, le patron de la diplomatie, Mike Pompeo, avait estimé que Téhéran se trouvait derrière cette attaque sans précédent. Et les services de renseignement, ici à Washington, ont publié hier plusieurs photos des sites attaqués, semblant démontrer que les rebelles houthis soutenus par la République islamique d'Iran ne sont pas suffisamment équipés pour mener seul une attaque d'une telle ampleur. Pour Washington, il est donc à peu près clair que Téhéran est derrière cette opération militaire qui a réduit de moitié la production saoudienne de pétrole. Trump se fait menaçant, alors que dans le même temps, la Maison-Blanche continue de travailler sur l'hypothèse d'une rencontre entre Américains et Iraniens, peut-être la semaine prochaine, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et Téhéran dénonce des accusations insensées et incompréhensibles.
Il est 8h05, Florence. Autre point du globe sur lequel les yeux seront braqués demain, Israël.
Élections législatives, les deuxièmes en 5 mois. Benjamin Netanyahou restera-t-il Premier ministre après ses 10 dernières années au pouvoir? La menace pour lui s'appelle Benny Gantz, leader de la coalition centriste. Alors pour ses dernières heures de campagne, Bibi fait chaque jour un peu plus pour mobiliser l'électorat de droite. Hier, il a décidé de légaliser une colonie sauvage de Cisjordanie. Cela ne suffira sans doute pas à convaincre les électeurs du sud du pays qui lui reprochent de ne pas faire assez pour leur sécurité, pour les protéger des roquettes tirées depuis la bande de Gaza voisine. Reportage signé Omar Waman.
Dans le ciel bourdonne un drone israélien. Il surveille la bande de Gaza visible au loin.
Il y a une roquette qui est tombée là et deux autres près de la maison avec le toit vert.
Les sirènes, les roquettes, c'est le quotidien des habitants de ce village qui se trouve à 500 mètres de l'enclave palestinienne. Yoel, agriculteur, fait partie des déçus de Benjamin Netanyahou.
Une des raisons principales pour lesquelles j'ai voté Bibi, c'est que je voulais vivre en sécurité. Aujourd'hui, j'ai un fils qui souffre de stress post-traumatique. C'est également le cas de mon père. Donc, vous ne pouvez pas continuer à voter pour quelqu'un qui n'a pas réalisé ce que vous attendiez de lui.
Yoel votera pour le changement, tout comme Sharon du village voisin. Elle dénonce l'inaction du gouvernement.
La plupart des gens qui vivent ici ont le sentiment qu'ils n'existent pas, qu'ils ne comptent pas, comme si cette région ne faisait pas partie d'Israël. Ils se sont abandonnés par ce gouvernement.
Un sentiment partagé par Abigail, une retraitée également en colère contre l'actuel Premier ministre qui n'a pas su, dit-elle, les protéger.
On est entouré de Palestiniens et il faut trouver une solution. À mon avis, Netanyahou freine la chose et ça m'angoisse parce que j'aimerais avoir la paix.
Longtemps présenté comme le monsieur sécurité du pays, Benjamin Netanyahou a perdu de nombreux soutiens dans la région. Dans le sud d'Israël, Omar Waman, France Inter.
En Tunisie, c'est la surprise du premier tour de la présidentielle. Exit les partis traditionnels. Selon des sondages d'instituts privés, 2 candidats anti-système arrivent en tête. Un universitaire, Kaïs Sayed, qui a fait une campagne de proximité avec très peu de moyens. Et l'homme d'affaires Nabil Karoui, en prison pour fraude fiscale depuis 3 semaines. Les résultats officiels seront connus demain. Et puis en Algérie, la date du 12 décembre a été fixée pour la présidentielle. C'est beaucoup trop tôt pour les contestataires qui continuent à manifester les vendredis et qui réclame des institutions de transition pour en finir avec le système Bouteflika.
Il est 8h08 en France, c'est jour d'examen aujourd'hui, Florence, pour 11 000 lycéens.
La plupart sont passés en seconde, mais ils n'avaient pas pu plancher sur le brevet avant les vacances, épreuve reportée au mois de juillet pour cause de canicule. Certains étaient déjà partis, Sonia Princey, ils seront donc 10 fois plus nombreux que d'habitude pour cette session de rattrapage.
Antonin devait partir en vacances avec sa famille en Asie. Les billets d'avion n'étaient pas échangeables, ses parents ont donc demandé qu'il puisse se présenter à la session de septembre. Il passera les épreuves dans un collège, sans enthousiasme pour ce tout nouveau lycéen.
C'est sûr que c'est un peu compliqué avec la rentrée des classes parce que je passe au lycée, je suis en seconde. On commence le travail, je commence à connaître mes profs. Au lycée, on commence à connaître le lycée, s'habituer. Et je vais devoir rater 2 jours de cours pour justement aller passer mon brevet dans un autre établissement. Donc ça me pénalise un peu. De toute façon, le brevet ne sert à rien. C'est surtout la pression des parents qui font que je vais devoir passer mon brevet avec mention. Mais si je devais choisir, je ne passerai pas.
11 000 candidats passent la session de septembre. C'est 10 fois plus que les années précédentes. Il a fallu solliciter davantage de collèges pour organiser les épreuves. Jean-Philippe Labie, principal adjoint d'un établissement parisien, s'est porté volontaire et va accueillir une centaine de candidats.
Il a fallu que nous aménagions effectivement certaines salles et que nous déplacions des cours qui étaient prévus dans ces salles sur d'autres lieux. Les cours auront totalement lieu normalement pour les autres élèves. Nous n'avons pas le besoin de supprimer des cours pour les élèves qui sont présents d'habitude en établissement.
Les résultats seront publiés fin septembre. Antonin saura alors s'il a obtenu la fameuse mention.
Sonia Princey, ma prof s'appelle Brigitte Macron. C'est la rentrée d'un tout nouvel institut pour grands décrocheurs aujourd'hui en banlieue parisienne. Établissement destiné aux 25-48 ans sans diplôme et financé par LVMH. La première dame y reprendra son métier de prof une fois par mois.
8h09, les agents des impôts, Florence, dans la rue aujourd'hui.
Ils vont manifester contre les 5800 suppressions de postes annoncées dans leur service d'ici 2022. Ça fera 10 000 en tout sur la durée du quinquennat, avec de nombreuses fermetures de trésoreries à la clé. Encore des départs de services publics s'inquiètent les habitants et les maires des petites communes, comme à Larbel dans le Rhône, où s'est rendue Mathilde Imberti.
Sandra vient s'entretenir en personne avec un agent des impôts. Les fins de mois sont serrées, elle limite les kilomètres en voiture, alors la trésorerie de proximité rend service, dit-elle.
On m'a dit de venir ici pour payer mes impôts, en fait, pour payer en trois fois, parce que je peux pas payer d'un coup. C'est toujours bien d'avoir une personne qui peut nous accueillir et nous dire comment faire. On est un centre à qui se référer pas loin, quoi.
Nous sommes à 25 km de Lyon, entre les portes du Beaujolais et les coteaux du Lyonnais. 6000 habitants à l'Arbrelle, une commune périurbaine typique, explique le maire, qui doit se battre pour le maintien des services. Pierre-Jean Zanettacci.
On a le sentiment que l'État abandonne ces territoires progressivement. Pour moi, ça a généré, entre parenthèses, beaucoup la crise des Gilets jaunes qu'on a connue en novembre. Si en plus on leur donne des exemples à l'inverse, oui, ils vont s'en emparer, c'est bien évident.
Une intersyndicale appelle à la grève pour maintenir les trésoreries. Il y en a 25 dans le Rhône. Gaël Montoya de la CGT.
On reçoit énormément de public, que toutes les personnes à qui on délivre des bons de secours, vraiment des aides d'urgence. Énormément de personnes âgées qui viennent nous voir. On ne veut pas fermer les trésoreries, on veut garder nos points de contact. On sait que le service public sera dégradé.
La direction assure que le plan de réorganisation n'est pas figé. La concertation est ouverte. Outre les syndicats, les associations de maires resteront vigilantes. À l'Arbrelle, dans le Rhône, Mathilde Imberti, France Inter.
Et si vous aviez un solde à régler aux impôts, sachez que vous avez encore 2 jours pour le faire. La date limite a été repoussée à mercredi. En grève également aujourd'hui, les professions libérales contre la réforme des retraites, avocats, infirmières, kinés, orthophonistes, après la RATP vendredi et avant Force ouvrière et la CGT ce samedi et le mardi suivant. Voilà qui donne le ton de la rentrée sociale, dont la majorité va pouvoir discuter au grand complet ce soir. Réception des députés et des sénateurs de La République En Marche et du MoDem chez le ministre des Relations avec le Parlement. Édouard Philippe y sera, Emmanuel Macron aussi. Ils n'ont rien contesté au cours de leur procès. Nasser et Amirouche Boutrif, les deux frères gérants du Kouba Libre, ce bar de Rouen qui s'est enflammé au mois d'août 2016, tuant 14 jeunes gens venus fêter un anniversaire. Ils comparaissent depuis une semaine pour homicide involontaire parce qu'ils n'ont pas respecté les normes de sécurité. Aujourd'hui, c'est l'heure du réquisitoire. Jean-Philippe Deniaux, il risque jusqu'à 5 ans de prison.
Face aux 14 familles plongées dans un inconsolable chagrin et aux rescapés encore traumatisés aujourd'hui par ce qu'ils ont vécu il y a 3 ans, les gérants admettent tout ce qu'on leur reproche. L'utilisation d'un revêtement inflammable pour insonoriser la cage d'escalier, pas d'extincteur aux normes, pas d'extracteur d'air, pas d'alarme et, le pire de tout, une porte de secours fermée à clé. Ils avaient oublié de la déverrouiller ce soir-là. Sans cela, tout le monde aurait pu s'en sortir, ont confirmé les pompiers à l'audience. Il n'y a pas de mots pour qualifier tout ça, reconnaît l'aîné des frères Boutrif à l'audience. Moi et mon frère, qu'on fasse 5 ans de prison, ça serait logique pour que les familles fassent leur deuil, même si je sais que ce n'est pas possible. Délicate sera la tâche du procureur tout à l'heure pour réclamer une sanction qui tienne compte à la fois du caractère totalement involontaire de cet homicide et de la nécessaire réparation de la douleur immense des 14 familles des victimes du Kouba Libre. Rouen, Jean-Philippe Deniaux, France Inter.
Et comment les frères Boutrif se sont-ils expliqués pendant leur procès, compte rendu d'audience complet sur franceinter.fr. Les balles ont fusé ce week-end à Marseille, 10 blessés dans les quartiers nord de la ville, au cours de 4 fusillades distinctes. Samia Ghali, la sénatrice socialiste de Marseille, réclame un comité interministériel de sécurité pour la ville. 2 résultats de foot à retenir. Aujourd'hui, la victoire de Marseille sur Monaco hier soir, 4-3. Et le nul entre Saint-Étienne et Toulouse, 2-2, 2 rencontres marquées par l'utilisation de l'arbitrage vidéo, 3 buts annulés à Geoffroy Guichard et un pénalty litigieux accordé à Monaco. Enfin, imaginez une mêlée de parlementaires en short, pas à l'Assemblée, non, mais sur un terrain de rugby, direction le Japon, où le 15 de France jouera son premier match de Coupe du Monde samedi face à l'Argentine, mais où une équipe œcuménique de politique est déjà sur le terrain. C'est la Coupe du Monde des parlementaires, une manière de faire de la diplomatie par le sport qui existe depuis 40 ans maintenant. Reportage sur place signé Fanny Lechevestrier.
Loin des costumes cravates, c'est en short, maillot et crampons que l'on retrouve nos parlementaires. Mais ici, pas de parti politique. Il n'y a que des joueurs, tous dans le même camp. Et cela permet de faire tomber quelques barrières, nous explique Olivier Damaison, député En Marche, et Jérôme Nury, les Républicains.
Là, on est vraiment le maillot de l'équipe de France et on est des joueurs et des copains avant tout.
C'est à l'image de la République. Finalement, le rugby réunit les uns et les autres comme la République réunit tous les Français.
L'équipe ainsi de Louis Alliot du Rassemblement National à Alexis Corbière de la France Insoumise, tous unis hier pour défier l'Angleterre et et en profiter pour de nouveau faire passer un message, souligne Christophe Blanchet, député En Marche du Calvados.
On a joué contre eux cet hiver, lors du tournoi des Six Nations. On a eu la chance.
Brexit.
Oui, ben exactement, et on les a battus chez eux, donc pour leur montrer qu'il faut rester avec l'Europe.
Une diplomatie par le sport qui dure bien plus longtemps, nous dit-on, qu'un match ou d'une troisième mi-temps.
On discute aussi avant, parce qu'il y a des cérémonies, on discute après, on discute aussi pendant l'année, après, parce que ça crée des contacts.
Donc là, on a joué aux Anglais, moi je reste en contact avec des parlementaires anglais, ce qui permet de discuter.
Et comme diraient les Anglais, sorry, good game. Pour la petite histoire, sachez que les Bleus ont encore battu l'Angleterre hier 29-7. Ils joueront demain face à la Nouvelle-Zélande pour une place en finale. À Fuji Yoshida, Fanny Le Chevestrier et France Inter.
Voilà, et on précisera que les parlementaires ont payé leur déplacement avec leurs propres sous, un peu comme quand l'équipe de France Inter et de France Info s'affrontent. Mais c'est en football, on ne fait pas de rugby chez nous.
C'est vrai. Et moi, je compte les points. Florence Paracuelos, merci.